Polysécur, épisode spécial Cyber-Echo. Je suis accompagné de Thierry. Comment vas-tu?
Très bien, merci. Toi?
Très bien aussi. Est-ce que tu peux te présenter?
Bien sûr. Mon nom est Thierry Marie. Bienvenue. Je suis directeur en évolution de la cybersécurité chez Desjardins. Précisément, je m'occupe de plusieurs projets, dont la connaissance des actifs, la cryptographie et sécurité en milieu utilisateur, donc la sensibilisation et finalement la réponse aux menaces, donc avec tout ce qui est l'orchestration, l'automatisation de la réponse.
Très intéressant. Tu viens présenter dans le cadre de Cyber-Echo le volet quantique qui est quand même très intéressant au sens où on commence à s'en inquiéter. Puis toute la confiance qu'on a au niveau société se base, heureusement ou malheureusement, sur la cryptographie. Donc, c'est quand même un élément très important à comprendre. Donc, je vais te laisser présenter comment tu vas venir nous aborder ça à Cyber-Echo et on va poser des questions pour la suite.
Yes. Premièrement, il faut s'assurer que tout le monde comprenne c'est quoi la cryptographie, les différents types, donc asymétrique, symétrique. Là, je n'entrerai pas nécessairement en détail, on pourra en reparler si tu veux, là, mais donc la cryptographie, c'est quoi? Après ça, c'est quoi l'ordinateur quantique? On s'entend, c'est très ésotérique pour bien des gens. Ça vient avec beaucoup de complexité, les problèmes physiques et tout. Ça reste qu'il y a des applications concrètes, dont justement une menace pour la cryptographie. Surtout asymétrique à ce niveau-là. Puis finalement, ben, regarder au niveau des institutions financières, c'est quoi les dangers que ça peut représenter puis comment se préparer autant que faire ça peut.
Oui, ben, très intéressant justement. Ben, est-ce que tu peux expliquer crypto un petit peu? Parce que juste pour mettre la base, sans rentrer dans asymétrie, asymétrique, puis ensuite basculer sur le quantique et qu'est-ce que le quantique vient faire puis pourquoi les gens sont énervés par rapport à l'arrivée du quantique par rapport à la crypto et notamment dans le milieu financier. Là.
Yes, donc... Crypto asymétrique, j'utilise toujours l'image une clé puis un cadenas. Mettons que tu as le cadenas, tu mets ton message, tu fermes le cadenas, tu ne peux plus le réouvrir. Moi, j'ai la clé, donc tu me donnes le message avec le cadenas. Moi, je peux l'ouvrir puis je suis le seul qui peut l'ouvrir. Asymétrique, c'est on a deux fois la même clé. On a un cadenas qu'on se partage puis moi, je le mets puis tu as la même clé. Là, ce qui vient difficile avec la symétrique, c'est qu'il faut quand même que je te donne la clé, la même clé que j'ai. Ça vient avec des challenges au niveau quand on a beaucoup de distance. Là, on est juste à un côté de l'autre, c'est facile, mais quand on est, mettons, à travers le monde, ben, ça devient plus complexe pour s'assurer que c'est seulement toi et toi qui as la bonne clé. Donc, asymétrique, symétrique, on parle souvent de certificats, de clés et signatures numériques, mais ça revient tout à peu près au même. Donc, que c'est quoi soit du chiffrement asymétrique ou du chiffrement asymétrique et symétrique. Donc, c'est un peu ça la crypto. Au niveau du quantique, ben, tu sais, l'image que j'utilise toujours, c'est que c'est facile. C'est un problème mathématique, la crypto. Là, donc, on rend la tâche difficile pour trouver. C'est la factorisation de grands nombres en général. Donc, on rend difficile de trouver la clé. Donc, je prends toujours l'exemple, encore une fois, de j'ai la clé, t'as le cadenas. On est capable de, moi, prendre ma clé puis la débarrer facilement. Mais de faire le chemin inverse, donc de passer du cadenas puis trouver la bonne clé, c'est complexe. C'est basé là-dessus. C'est la complexité de tout ça. Avec la cryptographie, c'est basé là-dessus. Le danger avec l'informatique quantique, c'est parce qu'ils sont capables de factoriser des grands nombres très rapidement, donc de faire des essais en simultané sur plusieurs nombres en même temps, ben ça vient challenger ça. Ça rend le problème de passer du cadenas à la clé de façon facile ou très facile dans certains cas.
Oui, puis là, dans le milieu financier, là, c'est justement parce que tu es dans cet univers-là, hein, on se comprend. Il y a des enjeux parce que la crypto fait partie du tissu du fonctionnement du milieu financier en général. Les terminaux de paiement, les transactions, les sites web et même les données qui sont stockées sont tous d'une façon ou d'une autre dans un contexte de cryptographie. Donc, il y a des préoccupations, comme tu mentionnes, le quantique a une capacité plus large, disons, d'attaquer. Donc, il va y avoir des conséquences potentielles sur l'avenir ou la confiance qu'on va avoir dans les transactions financières.
Tu l'as mentionné. Tu sais, un des trucs que je dis souvent, c'est les institutions financières, on est basé sur la confiance. On a vu des bank runs aux États-Unis, Silicon Valley Bank, par exemple. Parce que les gens ont plus confiance, donc ils vont retirer leur argent. Les institutions financières, on est basé là-dessus. Aucune institution financière est à l'abri d'un bank run, là, définitivement. Il y en a qui sont mieux protégés que d'autres, par exemple, mais ça reste qu'on n'est pas à l'abri. Donc, comme c'est basé sur la confiance, la crypto sert à garder cette confiance-là. Pour garder cette confiance-là, ben, on s'assure que les membres ou les clients ont une certitude que les données sont protégées, sont chiffrées, il n'y a personne qui peut intervenir, puis que c'est vraiment eux qui ont fait la transaction. T'sais, on valide certains éléments à ce niveau-là. Donc, si on perd cette confiance-là, ben on met à risque l'organisation au complet. Fait qu'on ne peut pas se permettre de dire « Ah, ben c'est un risque qu'on ne prendra pas en compte dans notre stratégie de cyber. » Donc, il faut s'assurer qu'on ait une couverture globale, puis ça, c'est un risque qui est quand même assez présent, puis qui représente vraiment le fondement de la business. S'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de business.
Tout à fait. Puis tu peux-tu nommer tous les endroits où les certificats se trouvent? Parce que je pense que la plupart des gens n'ont pas idée à quel point il y a des certificats ou de la crypto à peu près partout dans les choses financières, puis même jusque dans les terminaux de paiement des fois. Puis il y a des complexités avec ça, puis justement des éléments qui peuvent être tenus en compte pour l'arrivée du quantique.
Ben oui, tu l'as mentionné. Ben le plus évident pour les gens, mettons les guichets automatiques, veut pas, les transactions qui sont faites dessus sont chiffrées pour se rendre jusqu'à la centrale de traitement. Il y a définitivement les sites web, donc du côté des institutions financières, les sites web de transactions comme Accéder pour Desjardins, les sites d'assurance, les sites de réclamation, de courtage en ligne. Ça, c'est sûr, c'est des certificats. Donc, s'assurer que c'est vraiment le vrai site web auquel on accède, c'est pas un faux. Il y a aussi tout ce qui est rapport avec bon les BD, comme tu as dit. Donc, là, de l'autre côté de la clôture. Là. Donc, il y a les bases de données qui sont définitivement chiffrées. Ça, c'est plus symétrique en général parce que c'est relativement proche, mais ça représente un risque à ce niveau-là aussi. Il y a tout, c'est niaiseux, là, mais toutes les. Les ordinateurs qui sont sur les réseaux sont identifiés avec des certificats. Tous les devices, les IoT là, de ce monde, les caméras, les surveillances, les ci, les ça, ils ont des certificats pour s'assurer qu'il y a un accès au réseau. Donc, vraiment, il y en a beaucoup. Imaginez que chez Desjardins, on en a beaucoup. Là. On a quand même 55 000 employés. Donc, déjà là, un laptop par personne, on vient de partir avec 55 000 certificats. Déjà, pour identifier les laptops, là, ça exclut les devices, mettons, comme les téléphones qui sont fournis dans certains cas. Etc., etc. Donc, ça vient assez rapide. Et bien entendu, les serveurs, il y a aussi les terminaux de paiement, comme tu as mentionné, il y a des clés qui sont injectées dans les terminaux de paiement pour s'assurer qu'eux autres, ils ont une clé pour transférer l'information de façon chiffrée. Donc, ça vient à ce niveau-là, vraiment, là, c'est assez large. On parle de plusieurs millions de certificats en général là, dans des grandes entreprises comme ça.
C'est quand même assez intense ce genre de choses-là. Puis justement, moi-même, j'apprends l'amplitude que ça peut avoir en termes de gestion. On va peut-être, faut qu'avant de retourner sur le quantique, la gestion, tout ça doit quand même présenter des défis importants. Puis tu as mentionné plusieurs types de technologies qui doivent avoir des éléments distincts de gestion qui sont associés avec ce genre de choses-là. Comment ça est géré? Comment ça rend ça à la portée d'une organisation pour que ça soit vivable et que vous n'ayez pas genre 30 000 personnes juste pour gérer ça?
Je te rassure tout de suite, on n'a pas 30 000 personnes qui gèrent ça. C'est une bonne question. Il faut qu'on ait des bons outils. Là. Le but, c'est de gérer le cycle de vie. T'sais, le but, on s'entend, on peut pas avoir une centralisation parfaite de tout ça. Il faut qu'on ait une vue. Fait qu'on ait au moins une gestion du cycle de vie. Donc, ce qu'on regarde, c'est l'émission de certificats, on automatise au maximum. On n'a pas le choix parce que, comme j'ai dit, ça rentre de plusieurs millions de certificats, donc on n'a pas le choix d'automatiser. On ne peut pas mettre quelqu'un qui gère ça. Puis, tu sais, les certificats, ce qui est le fun, c'est qu'ils expirent tout seul. Donc, tu sais, on est plus en mode gouvernance au niveau des certificats, s'assurer qu'on ait des durées de cycle de vie qui sont pertinents selon l'industrie. Puis, il y a des standards, tu sais, il y a plusieurs standards. Le forum, j'ai un blanc, le forum, le CAB, je crois, je ne me souviens plus, le forum de browser, ils mettent en place des standards à suivre. Fait qu'on se colle à ça, puis on s'assure que ça soit géré avec notre cycle de vie. Puis de toute façon, les certificats, comme je mentionne, ils expirent. Donc ça, c'est pas trop pire. C'est les clés qui sont un peu plus difficiles à gérer parce que la clé, après ça, changer une clé, c'est toujours risqué parce que s'il y a quelque chose qui ne marche pas, ben sois capable de faire un backup. La clé est chiffrée. Si tu perds la clé, c'est un peu dans le trouble. Donc, ça, c'est un peu plus complexe. Puis, tu sais, dans des grandes organisations, il y a souvent des fois du shadow IT qu'on appelle. Bien, qu'il y a des cas où est-ce qu'il y a des gens qui se créent des clés, qui ne suivent pas les standards, tout ça. Fait qu'il faut s'assurer d'avoir une vision là-dessus. Fait que, tu sais, ça nous prend de la découverte. Un peu, pour vrai, là, ça ressemble vraiment à des actifs TI. Il faut le voir vraiment comme ça. Tu veux gérer tes actifs, ben, c'est un actif. Souvent, chez Desjardins, on le considère comme un CI, là, donc un Configuration Item au niveau d'ITSM. Donc, on gère ça comme un actif TI avec un cycle de vie, avec un propriétaire. Puis on s'assure d'avoir un ownership de ça. C'est un actif. Comment tu le gères?
Ah, c'est intéressant, justement, cette structuration-là. On va basculer sur le quantique. C'est quoi les dangers pour, ben, notamment une institution financière, parce que c'est vraiment ta posture où tu viens présenter, c'est ça. C'est quoi les dangers et comment vous les anticipez, ces dangers-là? Et ensuite, conséquemment, les réponses qui vont être mises progressivement en place pour s'y prémunir?
Les dangers, ben justement, tu sais, il y a deux risques principaux. Storm out, decrypt later, donc définitivement l'accumulation de données par un acteur. On s'entend là, le quantique, là, les chances que ça soit Jean-Bob, n'importe où dans le monde qui ait ça dans sa cour, sont minces. Ça prend une quantité d'énergie phénoménale, puis des connaissances que la majorité des gens n'ont pas. Donc, il y a plus de chances que ça soit un acteur. Un nation state, là. Probablement qu'il y ait ce genre de technologie-là qui permettrait justement de briser la cryptographie. Donc, ce qu'on veut se prémunir, c'est de s'assurer qu'on est dans le peloton de tête au niveau de la préparation à ce genre de menace-là. On ne veut pas être en arrière. Donc, là-dessus, on va s'assurer que ça fasse du sens avec la stratégie globale de l'institution financière, basée sur la confiance. Encore une fois, t'sais, la business n'existe pas s'il n'y a pas de confiance. On a besoin de s'assurer que la confiance reste. Puis pour ça, ben, il faut être capable de démontrer qu'on répond rapidement si jamais il y a un événement. Puis un des exemples, un événement qui s'est passé récemment en crypto, que, à mon avis, qui a montré un peu qu'il va falloir qu'on réagisse rapidement, c'est Google, pendant l'été passé, il a annoncé qu'il ne faisait plus confiance à Entrust à partir de novembre pour toute leur Chrome. Donc, à ce niveau-là, c'est quand même un gros joueur, on ne se le cachera pas. Et faire plus confiance à Entrust, ça veut dire qu'il faut changer les certificats de tout ce qu'on a à Entrust. Puis, ben, Entrust, ce n'est pas un si gros joueur dans le milieu des certificats de tout ce qui est PKI, mais il y a quand même une part de marché qui est importante. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas le choix de réagir rapidement. Donc, de switcher d'un fournisseur à un autre pour tout ce qui est des certificats publics. Donc, une autorité de certification qui est externe à ce niveau-là. Tu sais, ça a démontré qu'il faut qu'on soit capable de réagir rapidement. Puis pour ça, ben, il faut maîtriser ce que je te disais, justement, l'inventaire, notre surface d'attaque, toutes mes pratiques. Il y a des grosses. Pour moi, tu sais, pour être capable de se préparer à l'informatique quantique dans les institutions financières puis dans toutes les institutions, là, de toutes les organisations, c'est comme tout. La bonne pratique en cyber, c'est d'avoir une posture, d'avoir une idée de ta surface d'attaque. Après ça, c'est attaquer selon, de tackle le problème selon les niveaux de risque. Tu veux pas tes crown jewels, tu veux t'assurer de les protéger le plus rapidement possible. Et après ça, réduire ta posture de risque par rapport à certains de ces éléments-là de façon stratégique. Là. Parce que sinon, il y en a trop, comme je mentionnais tantôt, des millions de certificats. On ne veut pas les changer en un claquement de doigts, même si on automatise. Ça reste difficile. Fait que tu sais, pour ça, il faut les terminaux de paiement, je mentionnais tantôt, les guichets automatiques, les sites web de transactions. Ça, c'est tellement important. Si on n'a pas ça, si on n'est pas prêt à changer ça rapidement, ben, on a manqué notre job. Fait qu'il faut s'assurer d'être capable de répondre à ce genre-là. On dit souvent la crypto-agilité, là, c'est un beau buzzword, là, mais ça reste le mindset, c'est d'être capable de répondre à un événement très rapidement. Puis pour ça, ben, l'automatisation, il faut connaître notre inventaire, il faut être capable de ça. Puis c'est la solution pour répondre justement à la menace quantique. Il n'y a pas 56 façons parce que les algorithmes qui sont sortis qui ont été certifiés par le NIST récemment, là, à l'été, ben, il y en a 3 ou 4, là, 4 me semble maintenant, sont bons maintenant, mais peut-être que dans un an, ils ne le seront plus. Fait qu'il faut être capable de changer encore une fois puis encore une fois. Bon, ben des places, j'ai vu justement, il y a conférence à Toronto, à Ottawa actuellement, qui est sur la crypto, qui mentionnait que il y a encore bien des institutions financières qui utilisent SHA-1. Fait que tu sais.
Désolé.
C'est ça. C'est parce qu'on rit que c'est drôle, là. Mais c'est ça le point. Fait que tu sais, faut amener les grandes organisations qui ont beaucoup de legacy, d'amener un niveau de maturité qui est plus élevé, puis on n'est pas là pour l'instant, globalement dans le marché. Là,
Oui, puis ce que je vois de ce que tu mentionnes, c'est intéressant puis épeurant à certains égards. Un, parce qu'il y en a qui ne seront pas, mais ça devient comme le monde des correctifs de sécurité qui est devenu maintenant la norme de devoir déployer de façon standard, normée, tout ça, au niveau de l'application de correctifs. Mais tout est rendu dans cet univers-là où il y a jusqu'à temps qu'on s'énerve avec le quantique, on pouvait changer très, très lentement avec peu de conséquences parce que la capacité de casser n'augmentait pas rapidement. Donc, on peut toujours avoir une certaine assurance que ça ne serait pas si pire. Et dans le cas de Shaer, c'est drôle, mais en même temps, jusqu'à tout récemment, c'était suffisamment difficile quand même de casser. Puis c'est encore assez difficile, sauf pour des acteurs spécifiques. C'était quand même un modèle d'attaque qui soit conséquent. Puis tu disais justement, c'est pas Bob dans son sol qui va venir casser avec un ordinateur quantique qui s'est fait avec du peroxyde puis deux, trois affaires dans son garde-robe. Donc, on n'est pas dans le même univers. Donc, on est vraiment dans un modèle d'attaque très, très différent, ce que tu mentionnais justement. C'est intéressant de voir ce changement de paradigme-là où, dans le fond, la crypto est rendue comme tout le restant, qui va avoir un cycle de vie, ce qui n'était pas le cas il y a si longtemps. Puis on le voit, puis ça change beaucoup, beaucoup le paradigme. Donc, l'agilité qui naît, la crypto-agilité, comme t'as mentionné, est rendue un élément. Là, puis je trouve ça intéressant, mais épeurant en même temps, parce que sachant que c'est pas tout le monde comme Desjardins qui va mettre le temps et l'énergie pour déployer ça. Donc, on aura des pans de mur de notre société qui sont quand même assez fragiles.
Clairement, clairement. Puis c'est un des points que je mentionne justement dans la conférence, c'est concrètement, c'est quoi que ça représente comme menace? Bon, je parle définitivement de ce qui est au niveau de l'institution financière, mais dans le day-to-day, les gens, ce qu'ils font. Il y a Apple qui ont sorti le chiffrement, leur PQC2, je crois, là, pour le chiffrement de iMessage. C'est cool, mais il faut aller plus loin que ça. Puis il va y avoir une période de transition. Mais le plus gros risque, puis ça, c'est assez facile des téléphones. Dans le sens, tu peux changer l'algorithme assez facilement, là, à toute fin pratique. Imagine un satellite, un pacemaker. Tu peux pas, mais c'est des choses comme ça. Puis il y a des use cases où est-ce que ça, le certificat ou la clé doit rester pendant 10, 15, 20 ans. Ben, ça devient problématique. Surtout, par exemple, au niveau militaire, par exemple, avec des satellites. Ouch! Tu vas pas aller faire un update de ta clé sur ton satellite en orbite.
Quoi qu'ils ont réussi à faire dans Voyager, ils ont réussi à faire des upgrades à distance à l'autre bout de l'univers, là, c'est ça, mais l'autre côté, mais ça demande des prouesses techniques qui sont quand même plutôt difficiles à exécuter, surtout pour des satellites. Là, on revient plus sérieux, puis des satellites qui sont autour n'ont pas été pensés pour ça. Puis ils ont des durées de vie qui sont beaucoup plus courtes aussi que ce qu'on va retrouver en général, donc d'investir, mais se retrouver à l'aveugle ou en tout cas en clair pendant un temps, ça peut, pour des services militaires, c'est un peu problématique.
Tu sais, signal qui est utilisé pour le chemin. On a entendu parler récemment, pas nécessairement.
Il y en a qui en fait, c'est une bonne pub pour ça. J'imagine quand tu reconnais une croissance, parce que il y a tellement d'enneries qui s'est dit autour de ça. Là.
Ouais.
Il demeure assez sécuritaire, mais c'est pas pour usage de militaire, pour plusieurs des raisons, pas parce que c'est sécuritaire, mais pour d'autres choses. Bref.
Ouais. Mais c'est ça. Donc, tu sais, par exemple, Signal, moi, que j'utilise quand même beaucoup, il y a du chiffrement, il y a faux. Là, actuellement, ils sont en action, puis je pense qu'ils ont déjà pris action à certains égards, mais ça reste que télécommunications entre les gens, les sites web qui sont pour des petites shops qui n'ont pas nécessairement moyen d'avoir un certificat qui est avec un algorithme post-quantique. Ça représente aussi des coûts de processing power quand même qui sont plus grands parce que les algorithmes prennent plus de puissance pour être capable de chiffrer qu'avec un algorithme qui est résistant au quantique. Fait que, tu sais, ça, c'est résistant jusqu'à preuve du contraire. Là. Parce qu'on ne pompe pas
oui,
le
c'est
tester.
Ça. Tant qu'on n'aura pas une capacité réelle de tester, puis tester, ça coûte très cher à tester là, parce que ceux qui ont des quantiques, puis d'ailleurs, il y a un papier d'une université chinoise, je crois, qu'il avait sorti, puis tout le monde s'est énervé, mais dans les faits, c'est pas vrai, ils sont pas encore rendus là. C'est une fausse peur qu'ils ont fait aux gens parce qu'on n'est pas là. Puis encore là, c'est un papier de recherche dans des cas très spécifiques avec des choses, puis ça n'a pas la pleine portée. En tout cas, bref, c'est pas. Ouais.
Mais c'est intéressant parce qu'on a vu une croissance quand même majeure entre deux papiers. Le premier papier, il avait sorti, je pense qu'il y avait 12 bits de clés, l'enfant même, donc c'était relativement facile. Mais après ça, ils en ont fait un autre qui était quand même beaucoup plus gros, il me semble 22, 28 bits.
Autour de 20.
Autour de 20. C'est quand même un saut qui est quand même assez, en très peu de temps, qui est assez impressionnant. Bon, avec des paramètres bien spécifiques, mais getting there. les gens qui disent que ça n'arrivera pas, la crypto.
Non, ça va arriver. C'est comme.
C'est sûr.
Tout va finir par arriver, mais peut-être à des vitesses ou à des temps qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas anticiper. Puis c'est ça qui est. C'est ceux qui essaient d'anticiper, là, moi, je suis zéro, c'est impossible. Parce que autant, un exemple plus concret, c'est le AI. On ne peut pas anticiper ce qui se passe actuellement. Les gens qui ont essayé d'anticiper n'ont pas réussi. Puis de dire qu'il n'y aura pas que l'intelligence artificielle générale n'est pas demain matin, on n'a aucune idée de ce qui va se passer parce que dans les faits, c'est le propre de ces domaines-là. On n'a aucune idée, puis le quantique en fait partie.
Exact. Donc, c'est ça. Ça vient avec beaucoup de gamble, mais on va dire ça comme ça parce qu'on ne sait pas quand ça va arriver. On sait que ça va arriver. C'est sûr, il y a des progrès en continu, puis ça a l'air de vouloir s'accélérer. Donc, je me souviens, le CEO de Nvidia qui avait dit « Ah, c'est pas avant 20-30 ans. » Puis là, il est revenu sur sa position récemment parce qu'il disait « Ouais, je vais peut-être parler à travers mon chapeau. » Parce qu'on ne sait pas. Ça peut arriver. Puis on va dire vraies affaires. Les Chinois, on ne sait pas ce qu'ils font. Ils ont investi 10 milliards en 2020. Ils en font de même 10 milliards US. Puis on n'a à peu près aucune idée de ce qu'ils font à part quelques papiers à gauche puis droite. Ils ont quand même réussi à démontrer qu'ils sont capables de faire du chiffrement quantique parce que tu peux faire du chiffrement avec l'ordinateur quantique aussi. Sur une distance de genre 2-3 000 km. La théorie avant stipulait c'était 200 km, 250 km de max. Mais on est capable de le pousser vraiment plus loin. Fait que ça, c'est un exemple de. Ils sont capables de faire des choses concrètes maintenant, mais on ne sait pas ce qu'ils font avec tout ça. Puis c'est une menace à ce niveau-là. Puis organisationnelle, oui, mais c'est comme social aussi, là, on s'entend, parce que je compare souvent ça avec Enigma, puis justement, probablement vous êtes. Tu as peut-être déjà vu le Imitation Game, le film qui veut pas, tu sais, ça démontre justement ça frappe l'imaginaire, là, tu sais, les alliés ont été capables de briser Enigma, puis ils l'ont pas dit. Fait que l'ordinateur quantique, ça va être la même chose probablement.
Pour de très bonnes raisons, puis à l'heure actuelle, si tu parles de la Chine, ben c'est un acteur qui a pas intérêt à publiciser ce genre de choses-là, parce que si du moment qu'il va être capable de manipuler l'univers quantique à ce niveau-là, ça lui donne un avantage concurrentiel sur le restant du monde. Et on surtout au moment où on enregistre, la position géopolitique est comme en rebrassage. Donc, ça change beaucoup de choses. Et les alliances sont en train de se reformer autrement. Donc, ça vient changer de la dynamique qu'il va y avoir autour de ça, c'est sûr.
Clairement. Fait que, tu sais, c'est vu qu'on ne sait pas, ben, le mot d'ordre, c'est on se prépare maintenant. Puis le plus tôt qu'on est prêt, le mieux. Tout en étant réaliste, parce que ça demande quand même des investissements majeurs là, de réorganiser notre façon de faire avec des algorithmes. Ça prend des investissements aussi, tu sais, dans le code qui est fait par, mettons, les groupes, les développeurs, par exemple, ben, il y a des librairies de crypto, il va falloir qu'ils soient mis à jour, puis là, il faut refaire les applications dans certains cas. Ça représente quand même des investissements majeurs. Plusieurs experts disent que ça va représenter à peu près 10% des budgets de maintenance TI qui vont devoir être mis sur le passage à la post-quantique, la crypto. 10%, là, c'est quand même pas rien.
C'est énorme. On a la misère d'avoir un pourcentage pour la cyber, mais il faut prendre un 10% plus pour la crypto. Là, le monde va s'arracher les cheveux.
Ben, c'est ça. Fait que, ça vient avec des investissements majeurs. Il faut que les gestionnaires, les exécutifs soient convaincus que c'est la bonne chose à faire. Puis, ben, les institutions financières, on ne peut pas se permettre. Fait qu'ils sont déjà convaincus. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais il y a plein d'autres organisations qui sont là, ben, c'est pas pressant, puis ils risquent de se retrouver à l'eau, puis il va falloir virer vite le bateau. C'est pour ça que je trouve ça intéressant, tu sais, de voir les grands joueurs de ce monde commencer à parler de ça, parce que ça va motiver, puis ben, les gens qui vont juste hériter d'une protection contre le quantique parce que les gros joueurs se sont mis à faire ça.
Mais c'est intéressant que les gros joueurs, parce que Desjardins fait partie du moins dans le marché canadien d'un grand joueur, justement l'avantage de bousculer le marché, tu as mentionné comme Google, quand ils ont abandonné une autorité de certificat, ça a un impact majeur. Le fait que Desjardins se positionne, donc va monter le niveau de l'eau pour tout le monde, un peu irrité par hasard de certaines améliorations. Dans certains autres cas, ben, puis pour connaître les structures d'approvisionnement, notamment de chez Desjardins, ben, ces clauses-là vont apparaître dans les contrats éventuellement. Donc, dès lors, pour pouvoir être capable de contracter avec Desjardins, ben, il va falloir devenir quantum proof. Donc, ça va apparaître tranquillement et donc ça va forcer le marché à suivre et aller dans cette direction-là. Puis si je vois ça d'un très bon oeil, certaines personnes n'aiment pas ça, l'usage des méthodes contractuelles pour forcer le marché, mais C'est la meilleure, en tant que moi, le meilleur levier pour arriver à monter le niveau de l'eau pour que tout le monde en bénéficie.
Quand on veut faire bouger les gens, souvent l'argent, c'est un très bon motivateur. Puis il veut pas, si on dit, ben, si tu veux faire, tu vas avoir l'argent, ben, il va falloir que tu step up ta game, hein, comme on dit. Donc à ce niveau-là, ça vient intéressant. C'est un beau levier à ce niveau-là. Puis définitivement, puis on est en train de regarder ça justement pour comment inclure ça dans les contrats parce que. J'ai parlé beaucoup de l'existant, mais ce qui s'en vient, les futures évolutions, les futurs contrats, je veux pas, il faut s'assurer de protéger l'organisation aussi. Fait que il faut regarder, je fais toujours l'analogie d'un bain, là. Le bain il est plein avec ce qu'il y a déjà dedans. On veut s'assurer que ça soit clean, fait qu'on veut le vider, façon de parler. Mais il y a quand même le robinet qui coule, qui va continuer à le remplir. Fait qu'il faut s'assurer de gérer le robinet aussi. Il faut fermer le robinet pour être sûr certain qu'il n'arrête pas d'avoir, qu'il n'y ait pas d'autres nouveaux chars, par exemple. Par exemple, je suis pas en train de dire qu'il y en a du nouveau, là, mais il y a deux points. C'est un peu ça, c'est de s'assurer de gérer l'existant, mais aussi le futur.
Mais excellent, on a fait un grand tour. Y a-t-il des choses qu'on n'a pas abordées que tu aimerais discuter?
C'est une bonne question. Non, j'ai l'impression qu'on a couvert l'essentiel. Tu sais, l'emphase que je mets dans ma présentation, c'est de dire, ben, commençons maintenant à se préparer, attendons pas, autant que faire se peut. Juste par commencer à se poser des questions, s'éduquer là-dessus. C'est quoi les menaces? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Il y a des algorithmes post-quantiques qui existent. Il y a des HSM post-quantiques qui sont capables de gérer ces clés-là, mettons, qui sont capables de gérer ces algorithmes-là. C'est en mouvance, donc il vaut mieux s'informer maintenant, s'éduquer maintenant pour être capable que quand ça va arriver, quand on va pouvoir mettre la pédale au plancher, ben, qu'on soit prête. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de faire. Par exemple, justement, avec ce genre de conférence que je vais faire cet après-midi, ça va être vraiment d'amener ce genre de discours-là. On s'entend, je n'irai pas dans le technique à côté. Là. Je ne parlerai pas des qubits et tout ça au niveau de quantique, mais le but, c'est d'éduquer pour être capable d'avoir un discours qui est commun pour élever notre game.
Ouais, ben c'est la première étape. Je te remercie énormément de ce partage-là. C'est très intéressant, cette discussion-là. Puis je te souhaite bonne chance pour ta conférence.
Merci beaucoup.
Merci.